Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous avez embarqué pour une croisière littéraire, alors installez-vous bien, détendez-vous et ouvrez vos oreilles.
Cette semaine, nous avons décidé de lire des extraits de romans parlant de la Deuxième Guerre mondiale vus par des enfants.
C'est le premier extrait, lu par Méline, est le début du roman Juillet 42, Sous une mauvaise étoile de Stéphane Descornes.
Horrible était que celui de 1942, le plus étouffant que Paris eût connu depuis longtemps. C'était le dernier jour de juin, en fin d'après-midi. Munis d'un maigre sac à provisions, les trois enfants remontaient le quai de Grenelle, la gorge sèche, fourbue, en nage. « 3 heures de queue !» s'exclame Lise Angevin en consultant sa petite montre-bracelet. « Les gars, on vient de battre un record !» Elle exhibait fièrement la jolie montre qu'elle avait reçue pour ses 12 ans, et qui avait appartenu à sa grand-mère. François, son frère cadet, y jeta un bref coup d'œil. Leur ami Jonas, le plus jeune de la bande, lâcha quant à lui un soupir épuisé. « Tu as eu de la viande ?» s'enquit Lise en lorgnant le sac de son frère. « Aujourd'hui, mardi, c'était un jour sans. Les boucheries étaient fermées et personne ne pouvait acheter de viande, du moins en principe. Le rideau de fer était à moitié baissé, expliqua François. « Alors, j'ai jeté un coup d'œil dans la boutique. » Quand le boucher m'a vu, il a grogné quelque chose de pas aimable. Il m'a coupé des tranches de viande, comme un dingue, et m'a tendu le paquet avec un regard d'égorgeur. Je hais ce type. Je te rappelle que l'égorgeur a une dette envers papa, dit Lise. S'il ne nous vend pas de viande, il sait qu'il lui arrivera des bricoles. D'où l'intérêt d'avoir un père flic, plaça Jonas, un rien caustique. « T'es marrant, toi !» répliqua François. « Si on veut pas crever de faim, faut bien se débrouiller, non ?»
François faillit lui rappeler ce qu'ils étaient censés trouver chaque jour dans leur assiette. En gros, 30 grammes de viande, 275 grammes de pain, 7,5 grammes de beurre, 7 grammes de fromage, 8 grammes de chocolat, 2 sucres, pas de légumes, parfois un œuf, jamais de lait. Il se contenta d'exhiber ses bras maigres.
« Si on s'en tenait aux rations autorisées, conclut-il, en 2 mois, on se transformerait en squelette ambulant. »«
Je sais, » dit Jonas, « je plaisantais. »
Lise poursuivit son inventaire. « Et toi, Joe, tu as eu quoi ?»
Jonas désigna son sac à moitié vide.
« Pas grand-chose, » annonça-t-il en grattant sa tignasse rousse d'un air contrarié.
« Pas grand-chose, » annonça-t-il en grattant sa tignasse rousse d'un air contrarié.
« Des rutabaga !»
Ses amis firent la grimace. Jonas ajouta. « Il y avait 8 farines, et pour les œufs ?» Faudra revenir demain.
Et maman qui voulait nous faire un gâteau, soupira la fillette. On ne devait pas recevoir un colis de cousin pour papa ?
Demanda François.
Les Bretons ? Tu sais bien que les colis ont du mal à arriver, objecta Lise. Les gens les volent en route. Et on ne peut même pas leur en vouloir. C'est la guerre. Tout le monde crève de faim.
Nous aussi on crève de faim, grommela François.
Tout ça à cause des...
Le bruit rauque d'un moteur l'empêcha de finir sa phrase. Une voiture noire, chargée d'officiers SS, passa en trombe sur le pont. Un même frisson saisit les 3 gamins.
Les boches !
Le second extrait, lu par Pauline, Luna raconte l'entrée des Allemands dans Varsovie en 1939. Luna est juive. Pour elle, ce ne sera que le début des ennuis. Ce texte est issu du roman « Chante Luna » de Paul Duboucher.
Le ghetto. Les Allemands sont entrés dans Varsovie en septembre 1939. J'allais avoir 14 ans. J'attendus la première explosion pendant une leçon de chant. Toutes les vitres de l'immeuble ont volé en éclats. Madame Panfiska m'accompagnait au piano et elle s'est arrêtée. Elle a juste laissé ses mains sur le clavier, s'est immobilisée et juste à ce moment-là, le devant du piano s'est abattu sur ses genoux. Je n'ai pu retenir un fou rire. Au loin, nous avons vu brûler l'immeuble sur lequel était tombée la bombe. Cela a été notre dernier cours de chant. Les jours suivants, nous avons passé dans la cave. Varsovie était sous un déluge de feu. Il avait des explosions sans arrêt et j'avais très très peur. De nombreux juifs ont fui la ville, principalement les plus riches, ou ceux qui avaient de la famille à l'étranger. Quant à nous, il n'en fut pas question. Mon père savait que l'arrivée des Allemands signifierait le commencement du désastre. Mais pour ma mère, Quitter Varsovie, où elle était née, aurait été en soi un désastre bien plus grand que tout ce qu'elle pouvait imaginer. L'attente a commencé, une certaine attente qui n'allait plus nous lâcher, qui nous tenait enchaînés sur place. Fallait-il partir? Fallait-il rester? On ne savait pas. Fallait-il obéir à tous les ordres qui s'abattaient sur nous jour après jour? Fallait-il au contraire les ignorer? Les avis étaient partagés. Fallait-il descendre du trottoir quand on voyait un Allemand? Arrêter de fréquenter les cafés? Ne plus traverser un jardin public? Ne plus faire cuire son pain? Allait-on pire encore? Ou les choses allaient-elles s'arranger? Comme certains le prétendaient, il fallait être patient. Devait-on accepter de ne plus avoir d'argent sur soi, de ne plus se faire soigner par un médecin à rien, de ne plus porter de bijoux et de ne plus descendre le tramway? De ne plus mettre les pieds dans une boutique à rien? Personne ne voulait le dire, il fallait attendre. À force d'attendre, nous, les Juifs, nous nous sommes retrouvés paralysés. Ceux qui ont été sauvés, ce sont ceux qui n'ont pas attendu.
Nous arrivons à la fin de notre voyage. Vous pouvez regagner la terre ferme. À bientôt pour un prochain voyage.